dixième et dernière étude biblique, la première à laquelle je participe pour cette année scolaire, mais j'ai suivi à distance. Donc cette dixième et dernière étude biblique de la série d'études proposées avec le thème de l'année, David, une vie avec Dieu. Et cette dixième étude, vous l'avez vu, a été intitulée « Scandale, nous ne comprenons pas toujours Dieu ». David et le transport de l'arche, malheureux Ouza, dans 2 Samuel 6. Donc, il est plutôt bien connu, je pense, comme texte, mais nous allons le relire, et avant cela, je vais prier avec vous. Notre Père, merci beaucoup pour ta parole, merci parce que nous pouvons la lire, merci parce que nous pouvons la lire ensemble, merci parce que nous pouvons la lire en te demandant de nous éclairer par ton esprit, de nous guider, de nous soutenir. Et devant ce texte qui a des aspects bien troublants, nous te demandons de particulièrement nous guider vers ce que tu veux nous enseigner, nous rappeler, et ce que tu veux encore nous aider à mieux comprendre et à découvrir. Amen.
Amen.
Voilà, 2 Samuel 6, je résume les 5 premiers chapitres, enfin je les évoque. Les 5 premiers chapitres, ça peut nous aider à comprendre où on en est. Pourquoi tout à coup? Justement, ce n'est pas tout à coup. Pourquoi David veut déplacer l'arche? Est-ce que vous avez des souvenirs d'instructions religieuses et vous avez en tête 1-2 Samuel, 1-2 Roi, repris par 1-2 Chronique? Peut-être pas, moi pas toujours non plus. Mais je le dis parce que c'est relativement facile à retenir et ça peut nous aider. 1 et 2 Samuel sont repris plus ou moins par 1 Chronique. Et 1 et 2 Rois sont repris plus ou moins par 2 Chroniques. Samuel commence avec, ça c'est facile, la naissance de Samuel. 1 Chronique remonte beaucoup plus loin. Il repart de l'histoire de l'humanité. Et il recommence avec Adam. Mais 1 Samuel donc va de la naissance de Samuel à la mort de Saül. Et 2 Samuel, on va lire le chapitre 6 ce soir, commence avec l'installation du royaume de David. D'accord ? Donc entre 1 et 2 Samuel, il y a le passage entre David, entre Saül et David. Qu'est-ce qui se passe à 1 Roi ? Là, il y a un grand marqueur historique qui sépare 1 et 2 Samuel d'avec 1 et 2 Rois, qu'on retrouve dans la séparation entre 1 Chronique et 2 Chroniques. Qu'est-ce qu'il y a là au milieu? Il y a le schisme. D'accord? Donc la fin de 2 Samuel, c'est la fin du royaume de David. Et après, on reprend avec le schisme, royaume du Nord, royaume du Sud. Et puis, donc on est après Salomon. Et oui, j'ai dit David, on me trompe en fait. On est après Saül, David, Salomon. Et on a le schisme au début de 1 Roi qui correspond au début de 2 Chroniques.
Excuse-moi, ça veut dire quoi, schisme ?
La cassure, la séparation. Une séparation. Il y avait un royaume, et tout à coup, enfin pas tout à coup, avec une crise politique et une crise grave dans le peuple, on va se retrouver avec deux royaumes. Le royaume du Nord avec Samarie, et le royaume du Sud avec Juda et Jérusalem, qui a été moins infidèle que l'autre. Le royaume du Nord a été plus catastrophique, l'histoire du royaume du Nord a été la plus triste, avec beaucoup de rois mauvais. L'histoire du royaume du Sud, avec Jérusalem, et autre nom, le royaume de Juda, a bénéficié de plus de rois qui sont revenus à Dieu. Voilà, tout ça pour dire que dans 2 Samuel 1, on est au début du royaume de David. 2 Samuel 2, David est roi de... Alors, intéressant, j'ai redécouvert moi, en préparant pour vous, que dans 2 Samuel 2, on a David qui est roi de Juda à Hébron. Et dans mes notes, j'ai mis, il y a comme une alerte de schisme avant le schisme. J'avais plus ça en tête. Du temps de David, ça a failli se séparer en deux. Il y avait Ish-Bosheth qui était au nord et David qui était au sud. Mais 2 Samuel 3, Abner est tué par Joab, c'est des noms qu'on a entendus, que je n'ai pas toujours bien en tête, n'ayez pas peur, mais que je rappelle. Ish-Boshet lui-même est assassiné, 2 Samuel 4, et donc en 2 Samuel 5, on approche de notre chapitre, David est roi de Juda et tout Israël. Voilà. Donc il y a eu un danger de schisme au début du règne de David, mais ça s'est résorbé, et il y a eu encore tout David et Salomon avec un seul royaume, et c'est après Salomon qu'on a eu l'histoire des deux royaumes. Voilà. On arrive à 2 Samuel 6. Maintenant que David est bien installé, il a le projet, et on va lire le texte, et puis après on refera d'autres commentaires, mais on va lire le texte. David a le projet de déménager l'arche de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint, dans le tabernacle, dans le désert, qui a déménagé plusieurs fois, on reverra ça dans quelques minutes. Et là, David se dit, je suis maintenant bien installé, je veux que l'arche se rapproche du centre névralgique du pays, et se rapproche de moi. Et donc, ça part d'une bonne intention. Il y a des choses qui vont être mal gérées, mais ça part d'une bonne intention. Il veut manifester son attachement à la présence de Dieu. On y est ? 2 Samuel 6, je lis ce chapitre. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uzza et Ahjo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakhon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. J'arrête ici la lecture. Je vous propose de méditer ces 19 versets, ce texte qui a un verset particulièrement troublant, en suivant un chemin proposé par une méthode de lecture, une méthode herméneutique bien connue par plusieurs OIA, observer, interpréter, appliquer. L'idée, c'est de prendre le temps d'observer d'abord, puis ensuite d'interpréter au mieux ce qu'on peut comprendre de chaque partie de ce texte, pour enfin appliquer en trouvant des leçons qu'on peut s'appliquer pour nous 2000-3000 ans plus tard. Et puis un autre principe d'étude, un autre principe herméneutique qui va bien nous aider ce soir, j'espère, c'est ce qu'on appelle quelquefois l'analogie de la foi. Plus simplement, bénéficier d'autres textes bibliques pour nous aider à en méditer un qui a des textes parallèles ou des textes semblables. Ce n'est pas forcément des parallèles au sens du récit, mais il y a des correspondances fortes. Donc d'une part, on va y aller doucement en observant, puis interprétant, puis appliquant. Et d'autre part, on va vraiment chercher de l'aide dans d'autres textes. Voilà, donc première partie où on ne va pas être trop sollicité pour creuser les choses, où on observe. Versets 1 et 2, qu'est-ce qui se passe ? David, comme je l'ai dit en introduction, est installé comme roi total sur tout Israël, nous dit le texte, et il veut faire venir l'arche près du cœur de la vie du peuple et de la vie politique, et il décide de la faire monter depuis chez Aminadab, au verset 3. Donc il se met en route depuis chez Aminadab. Et là, je vous refais des rappels. Ça m'aidez-moi, j'espère que ce n'est pas trop long comme rappel pour vous. Depuis quand elle était là, cette arche ? Bon, je n'avais pas du tout ça en tête. J'avais le début. Ça commence où ? Exode, l'arche est construite, et elle est placée dans le lieu très saint, dans la partie du tabernacle la plus isolée. Donc ça commence dans le désert. Ensuite, deuxième époque assez connue, Josué. L'arche suit le peuple. Et il y a un jour où elle est particulièrement repérée, quand ils font le tour de Jéricho. Il est dit que les sacrificateurs portaient l'arche et faisaient le tour avec l'arche. Et puis un autre cas où elle est bien repérée, c'est quand ils traversent le Jourdain. En fait, c'est avant. D'abord, ils traversent le Jourdain, dans Josué 3, et l'arche s'arrête au milieu, puis tout le peuple passe, puis elle continue. Donc l'arche est vraiment présente dans l'histoire de Josué. Après, c'est moins connu, jusque-là, j'étais pas trop perdu. Après, on arrive dans le livre des Juges, et là, en fait, elle est la plupart du temps à Bethel. C'est un nom qu'on retrouve, mais je n'avais plus en tête. Qu'en fait, c'est là qu'il y avait l'arche, et Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc, elle était là. Et puis, la période des rois, donc on arrive avec 1 et 2 Samuel que j'ai évoqué tout à l'heure, l'arche va être la plupart du temps à Silo. Ça vous dit quelque chose ? C'est là que Samuel était enfant au service, aux côtés d'Élie, et qu'il était dans le temple, mais à l'époque, c'était pas un temple construit, mais c'est l'endroit où était l'arche. Donc, c'était à Silo. 1 Samuel 5, elle va partir chez les Philistins qui vont la prendre, qui vont prendre l'arche comme objet précieux. Mais très vite, Dieu va les toucher par une maladie mortelle. Et les Philistins vont comprendre qu'il faut très vite la renvoyer. Donc ça, c'est 1 Samuel 5, le livre avant 2 Samuel qu'on lit ce soir. Donc ils vont la renvoyer. Et ils vont faire quelque chose d'étonnant. Ils vont la mettre sur un char. Ils vont choisir deux vaches bien en forme. Et ils vont dire, les dieux vont guider les vaches. Et Dieu a permis que les vaches aillent tout droit. Hein. Le texte nous dit tout droit, hein, sans se perdre. Vers la frontière, jusqu'à Beth-Shemesh. Mais là, épisode tragique et douloureux aussi, les habitants vont s'intéresser à cette arche, la regarder. Ils vont manquer de respect. Et ils vont être gravement maudits. Donc ils vont s'en séparer. Et ils vont la donner aux habitants de Kiriath Jearim, où il y a, on y est déjà. Enfin déjà, c'était un peu long, mais on y est. Ce Aminadab. Et là, ils vont être bénis. Donc là, l'arche a été quelquefois objet de malédiction quand les personnes ont manqué de respect, et quelquefois source de grandes bénédictions comme symbole fort de la présence de Dieu. Voilà. Donc on est chez Aminadab, où l'arche est depuis son retour des Philistins. Versets 3 à 6. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils mettent l'arche sur un char neuf. Ça sonne plutôt bien, mais je vous donne un peu la parole. Est-ce que tout de suite, il y a quelque chose qui ne marche pas? Si je pose la question, c'est sûrement oui. De quoi vous pouvez peut-être vous souvenir un peu que Dieu voulait? On en est à l'observation seulement, mais on a le droit d'observer ça. On observe qu'ils la mettent sur un char neuf, on se dit bon, marque de respect, mais quoi?
Elle devait être transportée à dos d'homme.
Voilà, à main d'homme, ouais, par des hommes. Par des hommes, ouais. Donc, quand même, il y a quelque chose, si on a en tête un peu les consignes que Dieu a données, on se dit, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien respecté. Et donc, ils se mettent en route, versets 4 et 5, c'est la grande fête. David et toute la maison d'Israël jouent de toutes sortes d'instruments. Et puis, donc, cette arche, 2 Samuel 6, histoire facile de Ouza. C'est pas vrai, pas facile. Mais on y va doucement. On arrive au verset 6, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a l'arche qui est sur un char neuf, avec des... On parle des bœufs, je pense. Hein.
Les génisses.
Et puis, concernant les hommes, il y a Ouza de côté, et puis il y a son frère, qui s'appelle comment? Ashjo, qui est devant. Ils arrivent à un endroit où le chemin est moins plat, et Ouza, donc celui qui est à côté, voit que ça bouge. Donc on en est à l'observation. On va voir ce que vous en pensez tout à l'heure. Et le verset 6 nous dit, il étend la main, puisqu'il voit que ça bouge. Et là, Dieu manifeste sa colère devant quelqu'un qui a osé toucher l'arche qu'on ne devait pas toucher. Et il tombe mort, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamme contre Ouza. Dieu le frappe sur place à cause de sa faute. Ouza meurt là, près de l'arche de Dieu. On verra ce qu'on en fait tout à l'heure. Je continue l'observation. David, verset 8, est fâché. Irrité. Je sais pas comment en tout cas, c'est un peu surprenant, hein, dans l'observation, que David ne soit pas plus... il le dit après, verset 9, il a peur. Mais la première réaction de David, c'est qu'il est fâché. Okay. Et puis, que fait David? Allez, je vous donne la parole là. Verset 10, 11. Donc, il n'est pas d'accord avec ce qu'il voit. Hein. Verset 8, verset 9, il a peur de ce Dieu qui a fait que Ouza tombe mort. Et conclusion, verset 10, 11, qu'est-ce qu'il fait David? Vous vous souvenez, vous l'avez sous les yeux? Non, ça c'est avant, oui, c'est verset 8, 9. Mais de façon très concrète, très pratique, qu'est-ce qu'il décide?
Il la met dans la maison de Obed Edom.
C'est ça. Il dit, oulala, c'est tellement dangereux d'être proche de cette arche que finalement, je change mon plan et je la mets chez Obed Edom. Ce que le texte ne dit pas, c'est ce que Obed Edom en pense. David est le roi, mais c'est un peu surprenant. Hein. David dit, oh, c'est un peu dangereux d'avoir l'arche près de moi, donc je vais la mettre ailleurs. Mais du coup, il la met chez quelqu'un. Obed Edom, son nom veut dire obéissant. Hein. Celui qui se soumet, celui qui obéit. Obed. En tout cas, Obed accepte. On ne sait pas quelle est son attitude, on n'a pas de détails, mais il accepte. Et dernière partie de notre texte, versets 12 à 19, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans la phase la moins exigeante, où on ne fait qu'observer ce qui se passe. Verset 12, on vient dire à David, écoute, ça va très bien chez Obed. Obed Edom. Il est béni, 3 mois ont passé, et David se dit, bon, on doit pouvoir prévoir la deuxième partie du voyage. Donc, il envisage la suite du voyage, verset 12, deuxième partie. David se met en route, et fit monter l'arche depuis chez Obed jusqu'à la cité de David, c'est-à-dire Jérusalem, à nouveau au milieu des réjouissances. Quel est le petit détail, je vous redonne la parole, au verset 13, qui dit, ça sera développé dans un chronique qu'on lira tout à l'heure pour creuser l'interprétation de ce texte, mais quel est le petit détail qu'on peut peut-être remarquer qui dit que David a appris la leçon au verset 13? Qu'est-ce qu'il est dit au verset 13, les premiers mots? Quelqu'un veut nous relire ça? Quand ceux qui portaient l'arche. Ah! Et donc, ça correspond à ce que Dieu voulait. Il n'y a plus de chars neufs, il n'y a plus de bœufs, il n'y a plus de génies. Quand ceux qui portaient l'arche. Donc, dans le récit de 2 Samuel 6 qu'on a sous les yeux, on n'a que ce détail. Dans 1 Chronique 15 qu'on lira tout à l'heure, on nous explique vraiment que David a consciemment changé le mode de transport en écoutant ce que Dieu veut. Verset 13, il offre un sacrifice. Verset 14, il danse de plus belle. Et il y a l'épisode où la fille de Saül, nous dit le verset 16, on sait que par ailleurs c'est la femme de David, regarde par la fenêtre et trouve que David en fait trop. Et le texte utilise un mot fort, hein, elle le méprise. On ne sait pas trop quel genre de danse il faisait, mais sa femme a trouvé que c'était pas bien séant. C'est trop. Qu'est-ce qu'il fabrique, David, hein? Mais en tout cas, hein, dans le constat, dans l'observation, David est débordant de joie et il l'exprime très très fort. Verset 17, David offre des sacrifices et puis l'histoire termine très bien. Au verset 19, qu'est-ce qui se passe? Tout s'est bien passé, la deuxième partie du voyage n'a pas eu de drame, n'a pas connu de drame, l'arche est bien arrivée, David est très content, et qu'est-ce qu'il fait?
Grande fête.
Grande fête. Et il donne à tout le monde, à chacun, homme, un pain, bon, les traductions peuvent être différentes, une portion de viande et un gâteau de raisin, plat, entrée, dessert, à tout le monde, c'est la fête. Le roi gâte tout le peuple. Voilà, on a fini la première phase, la plus facile. On a observé. Interprétation. Donc, comme je l'ai commencé à le dire en observant, si on interprète ce qui se passe, ça commence avec une motivation qui a une partie bonne. David veut honorer, veut dire sa compréhension de l'importance de la présence de Dieu. Il veut honorer l'arche qui symbolise la présence de Dieu et il veut la rapprocher de Jérusalem, appelée ville de David, là où il y a sa présence des responsables du peuple. Avec quelle force et protection David se lance-t-il? Verset 1. Avec toute l'élite d'Israël, avec 30 000 homme, merci d'avoir souri. C'est quoi cette histoire? Pauvre David. On en est à la deuxième grande partie, interprétation. Qu'est-ce qui n'est pas juste chez ce grand homme qu'est David, dont nous parlons toute l'année? Qu'est-ce qui lui arrive là, au niveau interprétation? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? En quoi il se trompe? Et tout ça va se cumuler avec quelque chose qui nous trouble, mais qu'on va essayer de quand même d'intégrer dans notre compréhension de l'enseignement de Dieu. Quelle est la logique de David au verset 1? Il rassemble toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Quelle est sa logique de chef d'État, je pense? Qu'est-ce que vous diriez? Oui.
Je pense que à première vue, c'est pas mauvais. Il veut faire participer les autres,
oui,
à ce transfert parce qu'il estime que c'est important. Et...
Oui. Je te cite, à première vue, c'est pas mauvais, mais il est dans une logique humaine, quand même. Il veut faire participer les autres, il veut protéger un trésor, mais il le protège comment? Militairement, avec 30 000 hommes d'élite. Donc il n'est pas dans l'attitude que David a souvent eue dans sa vie, plus tard, avant déjà, mais beaucoup plus tard, où il s'en remet à Dieu. Et où il n'y a pas de plus grande protection que d'être à l'écoute de Dieu. Alors, de temps en temps, il faut se retrousser les manches, oui, et il faut des soldats dans l'histoire de l'époque, et puis il faut préparer. Mais là, il met le paquet militairement, mais il n'y a rien concernant un regard qui se tournerait vers Dieu. Hein.
Et dans 1 Chronique 13, quand même.
Donc, c'est les parallèles. Merci. Moi, j'ai 1 Chronique 15 que je vais lire tout à l'heure.
15, avec les chefs de milliers, les centaines et avec tous les princes. Et David dit toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel.
Oui. Donc, il oublie. Merci, Joël. 1 Chronique 13 nous dit quoi? Que David n'a pas oublié l'existence de l'Éternel. Et il dit aux autres, qu'en pensez-vous? Et si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, on va y aller, etc. Mais au moment de se mettre en route, il ne consulte pas l'Éternel et il ne se conforme pas à ce que Dieu a dit qu'il fallait faire. Au moment de se mettre en route, il se dit, on va bien protéger cet âge, et il fait venir 30 000 hommes d'élite.
Tu te rappelles quel était le chemin qu'il devait faire pour cette arche? Qui devait la porter? Je ne me souviens plus.
On va le relire.
C'était un petit bout de personne.
Oui, c'était des sacrificateurs, des lévites, et que des hommes. Et il devait se purifier avant, il devait se préparer, et il devait couvrir l'arche. On va relire quelques versets tout à l'heure, mais je commence à répondre. Donc, en fait, ta remarque, Joël, ajoute à mon émotion, ça va être la conclusion, mais je dis un tout petit bout, devant ce que ce texte dénonce, une marche partielle, une obéissance partielle. Ce texte est très exigeant. Il dit à quel point c'est important de ne rien oublier. Et donc David a effectivement évoqué Dieu, comme on l'a vu aussi, tout simplement, il n'oublie pas Dieu puisqu'il veut faire venir l'arche. Donc il y a beaucoup de bonnes intentions par là. S'il veut faire venir l'arche, c'est qu'il donne de l'importance à la présence de Dieu. Un Chronique 13 que tu nous as lu, Joël, nous dit qu'il a évoqué Dieu en disant « Si ça vient de Dieu, qu'en pensez-vous? Il faut qu'on le fasse. » Oui. Donc il est à cheval, le pauvre, au sens mauvais du terme. Il a des bonnes intentions, il le fait pour parce qu'il respecte l'importance de la présence de Dieu. Puis en même temps, il oublie des choses qu'il n'aurait pas dû oublier. Et c'est là que j'ai des frissons dans le dos. Parce que la faute de David et la faute d'Ouza, c'est d'avoir pas obéi jusqu'au bout. Et moi, j'ai fait pire qu'eux. J'y reviendrai dans l'interprétation, on y est un peu. Mais c'est ce qui nous trouble devant ce texte. Alors, en suivant quelle procédure, il a mis une armée, un char neuf, mais il a oublié ce que Dieu lui-même avait dit. Alors, c'est où ce que Dieu voulait? Dans Exode 25, qu'on ne va pas lire, il y a la construction, et il y a déjà des indices. Mais dans Nombre 4, on va lire quelques versets qui disent clairement ce que David aurait dû, ce qu'il avait en tête, c'est sûr. Tout le monde savait ça. Même nous, on le sait un peu par nos souvenirs d'école de dimanche. Alors, combien plus les Hébreux qui connaissaient tellement le texte de la loi. Donc, Nombre 4, je vais lire 5 à 7, 3 versets. Au départ du camp, donc il y a des consignes quand on bouge, hein. Au départ du camp, Aaron et ses fils décrocheront le voile qui sert de rideau et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement violet, puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap violet sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les bols et les aiguillères pour les libations. Le pain perpétuel y restera. Donc il devait couvrir tout ça. Je reprends verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir ce qui est saint, et tous les ustensiles du lieu saint, les fils de Kehath, donc c'est une partie des Lévites, ça correspond à ta remarque, Jocelyne, c'était les Lévites et une partie des Lévites, c'était précis, viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront pas à ce qui est saint. car il mourrait. Ah, c'était dit, hein. C'était dit, hein. Telle est la charge des fils de Kehath dans l'attente de la rencontre. Je lis encore le verset 20. Ils n'entreront pas pour voir envelopper les choses saintes, car ils mourraient. C'est même pas toucher, c'est voir. Donc il y avait tout un symbolisme. 3000 ans après, on comprend que c'est un symbolisme. Mais sur le moment, c'était lié à la vraie présence de Dieu, mais en même temps, c'était symbolique. Tout un symbolique qui dit à quel point on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Donc il était clairement interdit de toucher l'arche, on ne devait même pas la voir. C'est ce qui est arrivé à ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, à Beth Garen. Ils ont été curieux, et Dieu a envoyé la malédiction. Ils regardaient l'arche. Ça devait être beau, hein, tout en or. Ils voulaient voir ce trésor. Non. Donc l'arche, Dieu voulait que l'arche bénéficie d'un respect immense qui nous enseigne le respect que je dois avoir devant Dieu. Maintenant, on va lire quelques versets du texte parallèle de 2 Samuel 6, dans 1 Corinthiens 15, un peu plus loin que ce que Joël a lu tout à l'heure. J'ai dit quoi ? 1 Corinthiens. Voilà, merci. Là, ça commençait par C, mais ce n'était pas Corinthiens. Merci beaucoup. Je n'étais pas fait exprès pour voir si vous étiez vigilant, mais vous l'êtes. 1 Chronique 15. C'est vrai qu'un Corinthiens 15, c'est beau aussi, mais... 1 Chronique 15 dit, détaille ce qu'on a en un verset dans 2 Samuel 6, et ça nous dit que David a bien compris la leçon de la première partie du voyage. 1 Chronique 15, verset 2, c'est alors que David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites. Ah, ben voilà, il a compris David. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel et pour en faire le service pour toujours. David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Pas question de 30 000 tireurs d'élite, hommes d'élite, pas question de chars tout neufs, de bœufs. Non, ce que Dieu a dit, il faut que des Lévites portent cette arche. Je vais au verset 11. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaïa, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous. Non seulement c'était que quelques personnes, mais ils devaient se préparer. Vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à la place que je lui ai préparée. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché, cette arche, selon les règles. Et voilà. David a vraiment compris. Sur le moment, 2 Samuel 6, verset, c'était quoi, 8 ou 9, nous a dit que David était fâché, était en colère, verset 8. David fut irrité. Mais là, 3 mois plus tard, pour la deuxième partie du voyage, David dit exactement ce qu'il faut faire et il reconnaît que la première fois, il n'avait pas fait ce qu'il fallait.
Une question.
Oui.
Dans le verset 13 de 1 Chronique, quand tu dis nous, Dieu nous a frappés, oui. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi.
Oui.
Dieu.
Non, j'ai rajouté en disant, nous n'avons pas cherché l'arche selon la loi. Alors ça marcherait. Mais le texte parle clairement de ce qui a été cherché. Donc l'apostrophe en français, c'est l'arche. Donc je reviens au verset 13 que je relis. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous n'avons pas cherché l'arche selon les règles.
Ah oui.
L'arche n'est pas dans le texte, mais je l'ajoute parce que c'est clairement à l'arche que fait allusion le verbe chercher.
D'accord.
Ouais. Ça marche ? Et là, on est au cœur de ce qui est troublant. On est dans l'interprétation. Qu'est-ce qui se passe au verset 7 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je reviens à 2 Samuel 6, notre texte de ce soir, et le verset qui a fait tomber à la renverse David, et puis nous tous, hein, enfin je pense, je relis, 2 Samuel 6, verset 7, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza. Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. » Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qui nous tombe dessus ? Oui, on a la crainte, oui, bien, oui, c'est très juste. On s'est dit, waouh.
C'est la grande sainteté de Dieu.
Et là, oui, on est en plein dans l'interprétation. On craint ce grand Dieu. On comprend que ça évoque.
C'est bien faire, il voulait rattraper l'arche.
Donc, oui, donc on y va doucement. Et je ne veux pas rater vos bonnes idées. On comprend la grande sainteté de Dieu. Mais il est vraiment saint au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, décrire. Quoi. Il ne faut même pas toucher, il ne fallait même pas regarder. Quoi. Et ça, c'est qu'une image de ce que Dieu est. Et alors, tu disais, je t'ai coupé Marie-Joseph, mais reprends. Tu disais quoi tout de suite?
Que Uzza, il a juste le réflexe de vouloir rattraper quelqu'un qui tombe. Enfin,
oui, nous, on se dit, humainement parlant,
il n'a rien fait de vraiment mal, quoi.
On se dit tous, en général, en majuscule, pauvre Uzza. Et dans ma petite tête, très vite, ça paraît pas juste. Il protège l'arche de tomber. Ça aurait été dommage qu'elle tombe dans la boue. Enfin, s'il n'y avait pas plu, il n'y avait pas de boue, mais qu'elle se salisse. Puis c'est déshonorant qu'elle tombe.
Et il tombe mort. Posé sur un chariot,
ah oui. Oui, interprétation. Quand on commence à faire des trucs pas comme on aurait dû, il y a souvent une cascade.
Bon, il y a quand même quelqu'un qui l'a posé sur un chariot, alors comment ça se fait qu'eux ne sont pas morts?
Exactement.
C'était les prêtres qui l'ont posé dessus.
On ne sait pas. Et puis, il n'est pas dit qu'ils l'ont couvert. Donc, il aurait dû y avoir plus de morts. Et ça fait partie de mon interprétation. Y compris ce soir. Il pourrait y avoir plus de morts, régulièrement. Et mon idée, c'est qu'on est devant quelque chose qui a une immense force d'exemple. Jean-Philippe.
Pour notre image mentale, quand on début du tabernacle qu'on a, il y a toujours les barres qui portent l'arche.
Oui.
D'accord. Et pour montrer à quel point il ne faut pas s'en approcher.
Oui.
Et ces jours-ci, j'ai relu 2 Chroniques 5, je crois, où c'est le moment après la construction du temple, Salomon amène l'arche dans le temple.
Oui.
Et dans ma version, que je ne peux pas répéter dans une version française, il est dit que ces barres étaient si longues que leurs extrémités dépassaient tellement de l'arche qu'on pouvait les voir depuis l'entrée du sanctuaire interne, mais pas depuis l'extérieur du lieu saint.
Ouais.
Donc il souligne ici, dans cette traduction, la grande longueur des barres une fois posées dans le nouveau temple.
Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Donc ça dit à quel point même la longueur des barres disait qu'on ne peut pas s'en approcher. Faut bien être pas trop, faut bien toucher les barres quand même, faut bien porter l'arche. Mais la longueur même des barres, merci Jean-Philippe, est un symbole de plus qui dit qu'on ne doit pas s'en approcher. Et donc la grande question de Matthias est une question vertigineuse, mais les autres, ils n'ont pas fait de faute. Et il n'y a que Uzza qui a fauté dans l'histoire, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui.
Ça me fait penser... Des fois, il y a marqué danger de mort parce qu'il y a des fils électriques.
Oui.
Et pendant les tempêtes, si des câbles tombent par terre, si on voulait faire quelque chose de bien, empêcher que quelque chose tombe, mais on est confronté à quelque chose, à un fait. Quoi.
Je comprends l'image. Ça porte une bonne intention, mais c'est un geste impossible. On ne doit pas. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait utiliser le chemin d'interprétation qui est très utile à garder en tête. Observer d'abord le plus calmement possible, interpréter et seulement observer, interpréter, oui, et seulement après appliquer. On va y venir dans 20 minutes. Et l'autre principe très important, très utile, c'est chercher des textes qui sont semblables pour bénéficier de ce qu'on appelle l'interprétation par l'analogie de la foi. C'est un terme qui n'est pas très explicite, mais ça veut dire trouver des textes semblables. Hein, l'analogie de la foi, de tout ce qui concerne les vérités que Dieu nous révèle. Est-ce qu'il y a des textes, certains m'ont déjà entendu commenter ça avec Actes, justement je vous dis qu'il y en a un autre, est-ce qu'il y a des textes vraiment semblables?
Alors dans Actes, j'ai entendu ça de Étienne.
T'as entendu Étienne commenter, commenter l'épisode douloureux d'Ananias et Saphira. Et à l'époque, je vous avais dit, si on allait jeter un coup d'œil du côté de Uzza, ça pourrait nous aider. Et ce soir, je vous dis, on lit Uzza, réfléchissons à ce qui s'est passé du temps d'Ananias et Saphira. Donc ça en fait 2, il y en a 4. Qu'est-ce qui ressemble vraiment beaucoup
dans... Ce qui fait peur, c'est la scène, ceux qui prennent la scène indignement, il y a beaucoup sont morts.
Oui.
Alors là, ça me fait des problèmes, Charles, tout le dimanche.
On y reviendra. Mais donc, dans les textes bibliques, oui, on y reviendra. Dans les textes bibliques, est-ce qu'il y a des récits où on a aussi des morts, pas des gens qui ont des maladies, mais des morts, en relation, où est-ce que je vois, moi, des points très semblables, en relation avec des choses que nous, on ne considère pas dramatiques. Oui, les fils d'Aaron.
Oui, les frères de Moïse, Aaron.
Nadab et Abihu, ils se sont trompés de boîte d'allumettes. Enfin, c'est vocabulaire français courant d'Étienne. Le vrai texte, c'est « Ils n'ont pas pris le feu au bon endroit. » Mais ils n'ont pas égorgé personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même, dans mon échelle de gravité du mal, c'est quand même là aussi quelque chose que oh, ils n'ont pas fait tout à fait comme il fallait. Ils sont morts.
Bon, Adam et Ève, un fruit.
Ils sont morts. Et ils sont morts spirituellement. Et ça va être une autre grande clé d'interprétation. Est-ce qu'il n'y a pas un autre texte où quelqu'un a fait quelque chose qui était de la tricherie et puis la conséquence est incroyablement, elle est mortelle. Quelqu'un l'a dit ? Oui ? À quand ? Ça vous dit quelque chose ? À quand ? Il a égorgé personne non plus à quand ? Oui, oui, il a triché, il a volé, c'est pas bien. Mais
il a... Tout était voué par
la vie. Oui, oui, oui. Je ne vais pas le défendre plus que ça. Mais je ne vais surtout pas lui jeter la pierre, si je peux dire, pour quelqu'un qui a été lapidé. Il a triché, il ne devait rien prendre. Il a pris, il a caché sous sa tente, il n'a pas été correct. Il n'a pas été correct, comme disent les Québécois. Mais moi, je suis troublé quand même. Toute la famille lapidée, avec un montibule qui reste, pour que toutes les générations s'en souviennent. Ah, et là, je pense qu'on a une grande clé d'interprétation. Je propose que ces textes, qu'il est vraiment juste d'interpréter ces textes en osant penser que Dieu peut donner des exemples qui vont servir pendant des siècles. Mais je le formule, vous avez remarqué, je le formule lentement, j'ai un peu de mal. Parce que ça peut nous déranger à nouveau. Mais pour comment Dieu se permet de prendre Ananias et Saphira, pour les prendre les plus près de nous, pour nous donner un exemple. Ça pose question, oui. Mais moi, ma conviction, c'est qu'Ananias et Saphira n'ont pas péché plus que moi. Vous vous rendez compte, les bandits, ils ont voulu paraître plus beaux qu'ils n'étaient. Ça m'est arrivé, hein. Et j'ai fait bien pire que ça dans ma vie, promis. Dites pas, non, Étienne, est sympa. Non, j'ai fait bien pire que ça dans ma vie. Hein. J'ai fait beaucoup plus de peine à Dieu que ça dans ma vie. Hein. Mais ça a pris. Quelle est la conséquence du texte dans Acte 5 ? Une grande crainte s'empara de tout le peuple. Ouais. Et 2000 ans plus tard, quand on lit Acte 5, en général, on s'arrête plutôt 3 minutes qu'une. Hein. On reprend son souffle. Donc, ça a une force énorme d'exemple. Et qu'est-ce qui nourrit cette hypothèse ? C'est que ce n'est pas à n'importe quel moment que Dieu a redonné des exemples. Si on les prend chronologiquement, Nadab et Abihu, les fils d'Aaron. Hein, fils d'Aaron, c'est-à-dire, on est au tout début de tout le système lévitique, de tout le système sacrificiel. On est au début d'une grande période de l'histoire du salut. Et Dieu enseigne que le tout péché est à repousser, que tout péché fait du mal, que tout péché est grave. Après, à quand ? On est au début de quoi ? C'est pas dur, avec Josué. On est au début de
la conquête.
Et Dieu donne un exemple au début de la conquête, c'est tout début, avec Jéricho. Après, ils vont conquérir, donc ils vont se repentir. Après, il y a la conquête d'Haï. Et là, qu'est-ce que Dieu dit ? Prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai des frissons dans le dos quand je lis ça. Je me suis dit, mais pauvre Akan, il n'aurait pas pu attendre une semaine. Mais à Jéricho, Dieu avait dit, de façon exemplaire, c'est un cas où tout est voué à la destruction, tout est voué à l'interdit. Donc, on est au début de la période de Canaan. Et après, il y a beaucoup de morts dans cette période tragique. Mais il n'y a plus de mort semblable à celle d'Akan et son côté exemplaire. Ouza, texte de ce soir. On est au début de quoi ? si Dieu donne des signaux, très forts au début d'heure, on est au début de quoi ? La royauté, mais oui. Alors je sais qu'il y a eu Saül avant, mais on est quand même au début de toute la grande période de la royauté, avec le grand roi qui va être le type de Christ, hein, David, et on est au début de toute la royauté, et Dieu rappelle à David et à tout le monde que ce n'est pas parce qu'il y a un roi qu'on peut faire les choses à moitié. Et le dernier, chronologiquement, Ananias et Saphira, ben c'est facile aussi, on est au début de quoi ? Pardon ? De l'Église. Et depuis, il n'y en a pas. Hein. Il y a un tas de choses, mais il n'y a pas de récit, et il n'y a pas d'autres récits dans l'Écriture qui ont cette force d'exemplarité. Il y a le texte dont a parlé Marie, Joseph, qui dit que par négligence, par manque de respect, il peut y avoir des choses graves qui arrivent à des personnes, mais il n'y a pas un récit. Donc je propose, et on pourra y réfléchir dans les mois qui viennent, et puis dans l'heure qui vient, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et plus tard vous pouvez m'écrire, on peut en reparler. Mais je propose qu'on a là une clé d'interprétation, et qu'on a quatre récits au début de quatre périodes très marquantes de l'histoire du salut, où Dieu rappelle la gravité du péché, avec un exemple. Donc une des questions théologiques, c'est, est-ce qu'on peut accepter que Dieu utilise un homme ou un homme, une femme, un homme, une famille, pour donner un exemple ? Ça pose question. Mais oui, Dieu est souverain. La réponse, on la connaît. La théorie, on la connaît. Mais il faut qu'on y pense sans précipitation. Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Romains 9, qui es-tu ? Dit l'apôtre Paul à celui qui dit, mais pourquoi il a aimé l'un, haï l'autre ? Qui es-tu pour juger ? Et notre conviction, au milieu de ce qui nous est très compliqué à méditer, notre conviction, c'est que Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est au-dessus de tout, il ne se trompe jamais. Et nous, on essaie de comprendre autant qu'on peut ce qu'il nous révèle. Donc, est-ce que Dieu peut prendre des personnes pour qu'ils servent d'exemple ? Oui. Oui. Et alors, pour moi, une clé qui m'a aidé, quand même fortement, dans la rue, c'est difficile à dire, mais dans une salle d'études bibliques, on peut. On parle de quelle mort, là ? Dans ces quatre textes ? La mort physique. Ouais. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est là que dans la rue, certains pourraient me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi cette histoire ? Ils sont que morts de la mort physique. Là, ils vont me lapider si je dis ça. Mais quand même, dans ma recherche de compréhension de l'enseignement biblique, ça change énormément. Si Ananias et Saphira sont morts de la mort éternelle, je suis beaucoup plus perdu. Hein ? Pourquoi ? Parce que à cause d'un péché particulier que Dieu a utilisé pour donner un exemple, du coup, ils ne seraient pas pardonnés. Non, ils sont que, très clairement, je suis le texte, ils sont que morts de la mort physique. Et les jeunes gens ont enterré Ananias, et quelques heures après, Saphira, au même endroit. Ils sont que morts de la mort physique. Et pour moi, c'est énorme comme clé d'interprétation quant à l'histoire du salut. Et rien ne dit qu'Ananias et Saphira ne sont pas sauvés. Rien ne dit que Uzza n'était pas un croyant de l'Ancien Testament. Mais ils sont morts de la mort physique. Hein, c'est ce que le texte dit. Application. Dernière partie. Alors, d'abord, une petite pause. Des questions, des remarques là-dessus, là ? Les textes semblables, ma tentative de proposition que Dieu peut prendre des exemples, peut donner des exemples, cette dernière remarque sur le fait qu'ils ne sont que morts de la mort physique, et Dieu nous donne un exemple, mais c'est que la mort physique, c'est pas que tout à coup le salut, voilà, c'est pas que tout à coup le salut dépendrait de certains actes. Non, c'est pas le salut par les œuvres. Et puis, ça répond un peu à la question vertigineuse de Matthias tout à l'heure. Et pourquoi tous les autres ne sont pas morts ? Ils étaient meilleurs ? Non. C'est ce que Jésus va dire très clairement dans Jean 9. Non, ils ne sont pas meilleurs. Mais vous devez tous réfléchir, vous devez tous vous repentir, vous devez tous craindre Dieu. Et moi, je semble clair que dans la foule à côté de Uzza, il y avait des gens tout à fait aussi condamnables que lui. David, quelque part, était plus fautif qu'Uzza. Dans le peu que je comprends. C'est lui qui a tout mis en route. David, il n'est pas mort. Uzza, il a sauvé le truc, il a voulu sauver le truc et il est mort. Tu as des remarques là-dessus ?
Il y a un autre endroit qui nous dit que c'est Dieu qui dirige les vues. Peu importe si ça allait.
Oui.
Si ça penchait ou pas, il avait le pouvoir.
Oui. Et le texte que tu évoques, je l'ai évoqué à peine tout à l'heure, c'est quand les Philistins renvoient l'arche en disant oulala, on veut plus ce truc. Ils la mettent sur un char, ils mettent personne autour, tellement ils ont peur. Ils mettent deux vaches choisies et disent les dieux vont se débrouiller. Et effectivement, elles filent tout droit, les vaches. Donc oui, on peut dire Dieu pouvait protéger, mais la question théologique reste. Comment Dieu punit de mort quelqu'un qui a manqué de confiance ? Moi, j'ai fait pire dans ma vie. J'ai fait pire.
Oui, mais est-ce que c'était la question à ce moment-là de savoir si on doit... Si on a fait pire ou pas.
Oui, mais ma question, c'est qu'est-ce que Dieu veut que j'entende aujourd'hui ? Est-ce que, pour moi, il y a deux grandes options. Soit on cherche, certains l'ont fait, on cherche à comprendre pourquoi ces quatre personnes ont fauté particulièrement. Certains ont remarqué, pour Ananias et Saphira, qu'ils aient dit qu'ils ont menti contre l'Esprit, contre Dieu. Oui, moi aussi, j'ai triché contre Dieu. Donc soit on cherche à expliquer leur mort par la gravité de leur faute, ce qui me semble pas juste en finale. Soit on cherche à expliquer leur mort avec les deux clés que je vous ai données. Ça a une force d'exemplarité. Et Dieu, en donnant cet exemple, ne les a fait mourir que de la mort physique. Et il n'est pas question de mériter ou pas le salut. On n'est pas dans un salut qui serait en jeu selon les fautes plus ou moins graves que je fais. Non, non, on est sauvé par la foi. Pas parce que, si on était sauvé parce qu'on ne fait pas d'écart du type Ananias et Saphira, je ne serais pas sauvé. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Vas-y, remarque.
Je pense que les Israélites, ils ont transporté l'arche sur le champ de bataille selon les règles. Mais je me dis, après, les Philistins, ils ne connaissaient pas les règles, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment ils ont fait, les Philistins. Hein.
Alors, certains ont eu la bonne idée de se renseigner.
Hein?
Et c'était intelligent, ça. Renseignons-nous pour savoir comment on doit respecter les dieux des voisins. Beaucoup l'ont fait. Hein? Mais ils ne devaient pas garder l'arche comme ils l'ont gardée. Hein? Donc on pouvait se renseigner. Mais tu rajoutes à toutes ces questions qui tournent autour de « ça paraît pas juste, ça paraît disproportionné, que Dieu fasse que Uzza ait la lèpre pendant quelques jours ». Ouais. Hein? Moi, j'aurais... Mais du coup, l'exemple n'aurait pas eu la force qu'il a. Hein? Tu allais dire autre chose, Mathieu?
Oui, justement, tu l'as laissé entendre, entre dire qu'il ne faut pas forcément faire le parallèle entre la gravité de la faute et la punition.
Ouais.
Parce qu'il y a la notion d'un exemple que Dieu veut donner. Quoi. Donc je pense que là, c'est aussi une clé de lecture.
Très fort.
Parce que sinon, on serait amené à dire ouais, Dieu est tellement saint qu'en fait, c'est normal que Uzza soit mort.
Ouais.
Et peut-être pas, en fait.
Ouais.
On ne doit peut-être pas dire ça.
Alors, moi, je propose qu'on ne le dise pas. Et je ne rejoins pas du tout ceux qui disent qu'Ananias et Saphira ont probablement péché beaucoup plus gravement que nous, puisque Dieu les a fait tomber. À mon avis, il rate la leçon. Je pense que justement, on comprend la gravité du péché en ne grossissant pas le péché d'Ananias et Saphira. Ils ont triché. Ils ont fait semblant d'être plus gentils qu'ils n'étaient, plus généreux qu'ils n'étaient. Oh, les méchants. Ouais. Mais voilà, ils ont égorgé personne. Et je pense qu'on comprend beaucoup mieux la leçon si on ne grossit pas leur péché pour essayer d'avoir une équivalence péché très grave, punition très grave, mais qu'on reste avec ce constat, péché plutôt moins grave que d'autres, et pourtant, punition exemplaire, fatale. Jean-Philippe ?
Ouais, c'était presque un jeu de mots, c'était pour rebondir,
oui.
De dire que si on dit que c'est un péché très grave, c'est pour montrer qu'il est très grave pour tous les autres concernés. Et en fait, ils méritaient tous la mort. David le premier,
oui.
Vu comment on l'a évalué, c'est oui. Ce qui s'est passé. Et les responsables, plus que dans les autres exemples,
oui.
Ici, ce sont et David et les Lévites, enfin, tous ceux qui savaient ou qui étaient censés savoir comment on portait l'arche, comment ils ont pu oublier. On a du mal. Et donc, c'est à cause de la gravité du péché que cet exemple, parce que ça a eu une conséquence quand même fantastique. Ce que David voulait. J'imagine, il veut la bénédiction de Dieu. Il a fait venir cette arche parce que ça représente la présence de Dieu, et c'est ce qu'il voulait. Mais la grande leçon, et c'est nous aussi d'ailleurs, c'est la grande leçon, c'est comment on vient, enfin je ne sais pas si c'est la leçon, mais comment on s'approche de Dieu.
Oui, non, c'est une grande leçon.
Parce que dans le chapitre suivant, que nous avons longuement aussi lu cette année plusieurs fois, où David veut construire le temple, au départ, il y a aussi cette idée. Nathan lui dit non, c'est pas. Enfin, Dieu lui dit c'est pas comme ça. Et il lui montre.
Oui.
Et je crois que ici c'est pareil. Voilà.
Ah, oui.
Donc le péché est très grave, mais c'est qu'on mérite tous la mort.
Ah, oui. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc tout péché est grave, mais il me semble qu'on est vraiment sur la bonne piste dans ce qu'on dit autant qu'on peut avec les mots qu'on a les uns et les autres. Il me semble qu'on est sur la bonne piste quand on reconnaît que beaucoup d'autres auraient pu mourir. Mais ne sont pas morts, et qu'on est devant un constat étonnant. Ah, pourquoi eux et pas les autres? D'où le mot clé de l'exemplarité. Dieu a donné un exemple, et ça serait terrible qu'on n'en bénéficie pas au maximum, et ils sont morts. Donc il faut vraiment que nous, on en bénéficie. Proposition d'application. Qu'est-ce que je vais faire de ce texte en 2023? Premièrement, vous me compléterez. Compréhension de la gravité du péché et crainte de Dieu. Il me semble que c'est une leçon claire. Dieu rappelle du temps de la grâce avec Ananias et Saphira. Jésus-Christ est mort, ressuscité, remonté au ciel. Le Saint-Esprit a été donné, la grâce déborde. Mais le péché, c'est grave. Premièrement, compréhension de la gravité du péché et crainte de l'Éternel. Et plus on va dans le sens où on est allé les 10 dernières minutes, mieux on médite, à mon avis. Parce que si on grossit la faute de ces quatre personnes, on va dire, ouais, mais nous, on n'est quand même pas si mauvais que ça. Et on passe à côté de l'enseignement biblique. Et si on dit, même un péché, pas horrible, c'est un péché, je pense qu'on est sur les bons rails. Deuxième grande application, la repentance. Pour notre péché, et il me semble important qu'on médite le terme au singulier, pour notre péché, c'est-à-dire tous nos péchés, même les petits, nous devons être repentants devant Dieu. Et puis déterminés à obéir. Et alors, ce que j'ose mettre à la fin, qui est très exigeant, c'est que ce texte m'enseigne qu'il est important d'obéir minutieusement. Et pas en gros. Ceux qui connaissent Étienne savent que de temps en temps, il est un peu cool, il ne veut pas être trop carré. Ouais. Mais ces textes m'enseignent qu'il est important d'obéir minutieusement. Avoir un état d'esprit de personnes qui veulent se soumettre à Dieu. Troisième application que je vous propose, l'adoration devant la grâce. Parce que mine de rien, ces textes, à mon avis, nous enseignent très fortement la grâce. Parce qu'à côté de l'exemple d'Ananias et Saphira, il y a les millions d'autres dont je fais partie. Et moi, chaque fois que je lis ce texte, je dis merci à Dieu parce qu'il renouvelle sa grâce de génération en génération. De temps en temps, dans les églises, il y a des trucs pas chouettes. Vous avez le droit de sourire jaune. Il y a très peu de personnes qui tomberaient de mort. mon avis, on vaut pas mieux qu'Ananias et Saphira. Donc on est constamment les témoins de la grâce, puisque Dieu ne nous fait pas tomber. Donc ces textes crient la grâce. Les textes qui nous troublent au début, en finale, je prétends que c'est des textes qui disent très très fort et très très, très, très profondément l'étendue de la grâce de Dieu. Et on comprend d'autant plus l'étendue de la grâce de Dieu qu'on a accepté d'être troublé devant une disproportion entre le rappel que le péché c'est la mort et le genre de péché, à nos yeux pas trop dramatique, qui sont en cause. Conclusion, après ces trois applications, continuer à méditer la grâce, donc ça c'est le côté méditatif, contemplatif, et puis quand même je termine avec quelque chose d'exigeant qui nous met au travail, entendre l'appel très fort à ce que j'ai appelé une obéissance minutieuse. Et je l'ai redit à Dieu aujourd'hui dans ma préparation. Je veux entendre cet appel à une obéissance minutieuse. Et pas être simplement de ces chrétiens évangéliques qui savent qui ont compris le salut, qui savent qu'ils sont sauvés par grâce, que Dieu les garde, que je fais allusion à la belle étude biblique que j'ai entendue en différé. C'était la semaine dernière, c'est pas vieux. Hein, la certitude du salut parce que c'est Dieu notre sauveur. Oui, mais ceux qui sont au bénéfice de cette paix, de cette joie de savoir que Dieu les tient pour toujours, ils ont intérêt de méditer les textes qu'on a évoqués ce soir, pour ne pas être de ceux qui profiteraient au sens négatif de la grâce, mais de ceux qui bénéficient au sens positif de la paix, de l'élan d'adoration, de la reconnaissance, du zèle qui vient de la compréhension du salut et de la grâce. Amen.